Bon, je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Joëlle Kuntz, je suis journaliste au Temps, où je tiens chaque semaine une chronique de caractère historique. Et j'écris quelques bouquins de caractère historique, sur la Suisse notamment, ce qui fait quelquefois on me prend pour une historienne, ce que je ne suis pas. Je suis une journaliste qui s'occupe d'histoire. Et je me base sur le travail des autres, c'est-à-dire des chercheurs et des historiens. Je suis particulièrement contente d'être avec vous ce soir sur ce thème qui m'est très cher, l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait du passé ? Qu'est-ce qu'on sait du passé ? Qu'est-ce qu'on garde ? Et qu'est-ce qu'on oublie ? Qu'est-ce qu'il faut garder et pourquoi ? Et peut-être, qu'est-ce qu'il faut parfois oublier ? Ce thème est bien sûr suggéré par le centenaire de la Première Guerre mondiale, une guerre qui, de l'avis de tous les historiens, est celle qui a donné le plus de livres, pas seulement dans la période actuelle, mais depuis le lendemain de cette première guerre, des recherches, des livres, des publications ont commencé à sortir et c'est certainement l'événement guerrier de l'histoire qui a donné lieu au plus grand nombre de publications et de réflexions. C'était probablement un événement si nouveau, fondant l'histoire des hommes, par sa cruauté, par les technologies qui étaient mises en place, par la ferveur des premiers jours des combattants, pour se terminer par leur désespoir rapidement, et ensuite par les conséquences que ce conflit a eues sur la géographie politique de l'Europe et du monde. Alors, comme le dit le titre de cette rencontre, faut-il célébrer les 100 ans de cet événement ravageur ? Pourquoi ? Ou faudrait-il au contraire le laisser passer, peut-être en détournant un peu la tête, pour pouvoir vivre demain ? Mais est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on peut faire ce choix ? Nous sommes aujourd'hui dans un état d'esprit de commémoration. Nous parlons plus que jamais du devoir de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert un devoir de mémoire ? Je vais vous rappeler qu'au Moyen Âge, la plupart des guerres se terminaient par une clause d'oubli. Les rois pardonnaient, les fautifs obtenaient rémission, les spoliés recouvraient leurs biens, les protagonistes oubliaient, les procureurs se taisaient. Il y avait tout un rituel du pardon et de l'oubli. On prenait juste la précaution d'écarter les mauvais, parce qu'on savait qu'ils étaient mauvais. On ne les accusait pas, on les excluait du système. L'abolitio, c'était le signe de la paix. L'abolitio, c'est-à-dire l'abolissement de l'événement, c'était le signe de la paix. Et la paix, au Moyen-Âge, c'était la paix voulue par Dieu. C'était donc la paix de Dieu. Et donc, on n'allait pas faire des histoires encore, à dire « oui, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça ». Aujourd'hui, on est dans un tout autre état d'esprit. Après l'utopie communiste, vous savez, du passé faisons table rase, hein, c'est l'international, nous nous sommes mis à cultiver l'histoire. L'histoire de nos nations et des guerres qu'elles se sont faites. Les nations se justifient essentiellement par leur histoire, qu'on essaye de faire la plus ancienne possible. et souvent la plus héroïque possible. Est-ce que nous nous portons mieux aujourd'hui par la mémoire que le Moyen-Âge par l'oubli? C'est la question que nous allons discuter, que vous allez discuter. J'ai avec moi 5 interlocuteurs. Et donc, c'est à eux que vous allez... Ils vont chacun se présenter, dire pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, et dire quelques mots sur ce thème. Oubli, mémoire, commémoration lourde, commémoration moyenne. Ils vont dire brièvement ce qu'ils pensent, et après quoi, on pourra discuter tous ensemble. Je vous passerai la parole. Voilà. Je pensais commencer par monsieur le professeur de lycée, parce que vous, au fond, vous êtes en contact avec les nouvelles générations, et j'aimerais savoir comment, à votre avis, les nouvelles générations considèrent la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça leur dit quelque chose ou pas? Mais dites-nous d'abord qui vous êtes, et puis ensuite...
Bien, je m'appelle David Ducker, j'enseigne au lycée Blaise Sandrard de La Chaux-de-Fonds depuis une trentaine d'années, et bien sûr que la Première Guerre mondiale occupe une place très très importante dans le programme du lycée, surtout depuis la nouvelle maturité qui a été introduite il y a une quinzaine d'années, et qui a encore plus concentré l'attention du programme d'histoire au lycée sur ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Donc à partir de là, la Première Guerre mondiale apparaît vraiment comme une sorte de matrice du XXe siècle. Et c'est clair que je crois que tous les enseignants d'histoire du niveau lycée savent que c'est un moment important. Comment ils sentent les élèves cette période? Je dois dire une chose importante pour nous, les enseignants d'histoire, c'est de faire comprendre aux élèves qui s'inscrivent dans l'histoire. Autrement dit, qu'à un moment donné, ils prennent conscience de l'histoire. Et je dois avouer que je suis de plus en plus confronté à des élèves qui sont nés à la fin du XXe siècle et qui arrivent à leur horizon où ils prennent conscience que l'histoire existe. C'est souvent vers 5-6 ans, quand il y a des grands événements. Alors maintenant, la génération qui arrive... L'événement marquant, vous l'avez évoqué tantôt, c'est le 11 septembre 2001. Donc pour eux, l'histoire commence à ce moment-là. Et pour eux, le XXe siècle, ça devient le siècle dernier. Ce qui pour nous, je suis né en 1957, j'insiste sur cette date, ce n'est pas pour faire de l'anecdotique, mais je suis né en 1957, donc vous voyez bien dans quel milieu pour moi, c'est l'assassinat de Kennedy, c'est la guerre froide qui m'a complètement formé. Mais en plus, pour moi, la Première Guerre mondiale est certainement une des choses importantes qui m'a fait prendre conscience de l'histoire, parce que j'ai mes deux grands-pères qui ont fait la guerre et qui l'ont raconté. Mon grand-père suisse-allemand, Max Jucker, il a fait la guerre, il s'est été mobilisé, il était dans le Jura, donc c'était quelque chose de très fort. Et mon grand-père italien qui venait d'Istrie, lui, il a fait la guerre dans l'armée austro-hongroise. Il s'est battu contre les Serbes. Donc pour moi... La Première Guerre mondiale, elle était vivante. Je suis né en 1957, mais pour moi, la Première Guerre mondiale, elle avait été vécue par mes grands-parents. Et je me rends bien compte que pour les élèves, c'est quelque chose qui est très important pour eux de se mettre dans un continuum et à partir de là, de réaliser que la Première Guerre mondiale est un moment important. Et j'évoquerai, je pense, plus tard, pour ne pas trop prendre la parole au début, combien ils sont fascinés par la Première Guerre mondiale. Je vous donnerai toutes sortes d'exemples. Vous verrez, pour eux, cette Première Guerre mondiale leur parle énormément. Elle est d'actualité. Merci.
Merci. Monsieur Kolb, voulez-vous expliquer pourquoi vous êtes là?
Merci, madame. Alors, en très peu de mots, tout d'abord, je suis là pour répondre à une demande qui m'a été faite. Ça, c'est une chose. Donc, je n'étais pas volontaire, alors que j'ai été engagé volontaire dans l'armée française à l'âge de 18 ans. Mais je suis né en 1936, ce qui vous situe à peu près les périodes que j'ai pu vivre, notamment celle de la Deuxième Guerre mondiale, tout d'abord réfugié, puisque je suis né à Metz, et qu'on s'est retrouvé à l'opposé de la France, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Les Allemands sont avancés, bien entendu, jusqu'à la frontière espagnole, quand ils ont envahi ce qu'on appelait la zone libre. Et mon père, lui, qui avait été... vous m'excusez, mais j'ai eu un AVC, de temps en temps j'ai des mots qui sautent, qui avait été mobilisé, comme tous les Français, s'était évadé, et nous avait retrouvés. Et lorsque les Allemands sont arrivés jusqu'à la frontière espagnole, il est entré dans la résistance. Et on a ainsi vécu dans une sorte de clandestinité jusqu'en 1945 à la libération. Tout ça, c'est pour juste situer le fait que je suis plus engagé dans la Deuxième Guerre mondiale au niveau de mes souvenirs. Et là, je ferai une petite différence entre souvenir et mémoire. Le souvenir, c'est quelque chose qu'on a vécu, dont on a été un acteur passif ou actif, mais dont on a pris part d'une façon ou d'une autre. Et la mémoire, c'est quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, d'autrui, par l'école, par les parents, par des publications, etc. Alors, il est très important de faire cette distinction parce que le souvenir, c'est la racine de la mémoire. Et tout le monde ne peut pas avoir de souvenir parce que tout le monde n'est pas né avant les conflits. Mais par contre, la mémoire peut être distribuée à tout le monde et est indispensable d'ailleurs à tous les habitants de tous les pays. Tout ça pour éviter... pour prendre conscience qu'il y a des risques, qu'il y a des dommages et qu'il y a des blessures, autant physiques que psychiques, morales, etc. Donc la mémoire, à mon avis, doit être conservée. Maintenant, comment est-ce qu'on va la conserver? Ça, c'est un autre point. Tout d'abord, à mon avis, par l'instruction, ce qui est la base. Et puis ensuite par les publications et d'autres moyens. Et je vois très souvent des émissions consacrées à la Deuxième Guerre mondiale ou même à d'autres conflits qui sont diffusées à la télé ou même on peut apprendre énormément de choses sur Internet. Donc pour moi c'est indispensable puisque c'est une sorte de pare-choc pour le futur, et que si les générations actuelles qui n'ont heureusement pas connu en pratique ces bouleversements et ces difficultés, en tout cas, elles pourraient en prendre connaissance pour, dans l'avenir, essayer de les éviter. Ce qui me paraît indispensable.
Merci. Merci. Je vous interrogerai sur les cimetières après, mais... Mais Monsieur Bercier, donnez-nous votre point de vue.
Bonsoir. Alors juste pour me présenter, donc Marc Bercier, je suis docteur en psychologie et puis je travaille dans les domaines qui touchent à l'intelligence et à la stratégie. Alors par rapport à ce sujet, je dirais que la Première Guerre mondiale est un sujet qui m'a toujours énormément intéressé. Je suis passionné d'histoire, je dirais surtout tout ce qui touche, disons, depuis la guerre de sécession jusqu'à la guerre du Vietnam. Mais la guerre la Première Guerre mondiale particulièrement, je dirais, par rapport à ce côté inhumain, un peu tout ce qu'on peut voir encore dans les films, dans les différents reportages, ou encore par les bandes dessinées de M. Tardy, qui quand même, je trouve, un élément intéressant. Je vais expliquer peut-être un peu pourquoi. Mais en tout cas, la nécessité de mémoire est, à mon sens, fondamentale. L'homme d'aujourd'hui n'est pas meilleur que celui d'hier. Celui d'avant-hier n'est pas pire que celui d'aujourd'hui ou d'avant. Donc je pense qu'il y a quand même une constante dans la nature humaine. Donc la nécessité du... du souvenir. Je dirais que pour la première guerre mondiale, on a 18,6 millions, si je me base sur les données de Wikipédia, à peu près équitablement répartis entre les militaires et les civils. Donc ça montre déjà des chiffres qui sont absolument vertigineux, avec encore un autre chiffre que j'ai été pêché, c'était pour la bataille de la Somme, pour la seule armée anglaise, le premier jour de la bataille, donc le 16 décembre, ils ont compté 19 800 morts et 58 000 blessés, victimes. On parle de pour un jour. Donc je trouve que simplement déjà ces chiffres-là font froid dans le dos. Et il y a une nécessité, à mon avis, d'un souvenir sur la base de la totalité. Puis peut-être le dernier point à dire, qui pour moi est important par rapport à la notion de conflit, c'est tout l'aspect du deuil, tous les aspects qui touchent également aux émotions. Donc on est dans des situations qui sont extrêmes, où on a l'homme dans sa face la plus sombre, la plus horrible, mais également paradoxalement dans sa face aussi la plus noble dans certains cas. Donc ça, c'est un peu un élément des paradoxes dans un monde qui est complètement chaotique et terrible.
Monsieur Tissot.
C'est un sujet difficile. C'est un sujet très difficile. Alors je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Cobb, mais avec d'autres mots que j'utiliserai, entre la séparation qu'il faut faire entre moi, ce que vous appelez la mémoire, moi j'appelle l'histoire, et ce que vous appelez le souvenir, moi j'appelle la mémoire, mais la distinction est la même. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, je suis moi sceptique, et je suis quand même très interrogatif face à ça. Alors bien sûr que se commémorer des événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité, et vous l'avez dit, la Première Guerre mondiale, c'est 20 millions, j'avais 20 millions de victimes, la deuxième, c'est 60 millions, pour le XXe siècle, si on prend en compte toutes les autres guerres plus locales, ben, ça fait beaucoup de victimes. Et qu'est-ce qui nous pousse à commémorer des tueries, des massacres d'une intensité épouvantable, où la face la plus bestiale de l'être humain apparaît. Alors, il y a peut-être différents éléments qui font qu'on s'intéresse à ça. Je ne crois pas et je ne crois plus, je le croyais, au fait du côté rédempteur de la commémoration, c'est-à-dire de croire qu'en se commémorant, il n'y aura plus jamais ça. C'est pas vrai, c'est un immense mensonge. Il y a toujours ça aujourd'hui, on le voit en Ukraine et on le voit ailleurs. Donc il n'y a aucune utilité pédagogique de croire que en se commémorant ces événements, on sera meilleur. Peut-être on est pire, finalement. Et peut-être que les médiévistes peut-être avaient raison, il y avait un droit de l'oubli. Mais je crois que Google est en train... Non, oui, il me semble qu'il y a une vaste débat là autour de vider les grands paniers informatiques pour ne plus laisser de traces. Je crois qu'on doit se poser la question peut-être d'être plus à même de comprendre que le droit d'oubli est peut-être un droit et que le droit de mémoire est un instrument qui a été peut-être créé à certains moments pour faire croire que. Donc là, il y a une part de mystification, d'une magie qu'on croit qu'on peut tirer un lapin d'un chapeau et puis que finalement ce qu'on tire de la mémoire et de la commémoration va nous servir. Moi je suis absolument sidéré de voir quand j'entre dans une librairie, prenons Payot qui est peut-être la plus connue, mais je ne fais pas de la publicité pour Payot, d'aller vers la rubrique histoire et de voir que les trois quarts des livres c'est sur la guerre, surtout la deuxième, aussi sur la première. Donc je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un sentiment morbide des gens de savoir quel est finalement, qu'est-ce qu'un bourreau, qu'est-ce que le mal? Hitler n'a jamais autant fait l'objet d'ouvrages. Maintenant, on lit les mémoires de Goebbels, les mémoires de Göring, tous ces bourreaux infects, et on ne cesse de s'intéresser à eux, on ne cesse de publier des livres sur eux, et on ne cesse de les acheter. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses plus merveilleuses que l'humanité nous donne. Donc, alors là, peut-être c'est le psychanalyste qui pourra parler. Je ne sais pas si un sentiment morbide. Nous nous intéressons à la folie humaine et on ne cesse de commémorer la folie humaine. À un moment donné, il y en a marre qu'on s'intéresse au club méditerranéen ou qu'on s'intéresse aux loisirs. Ou là, peut-être la face heureuse de l'homme apparaît. Donc, moi, je suis très interrogatif sur cet événement parce qu'il est forcément instrumentalisé. Et il faut se poser des questions. Pourquoi, comment, qui propose ces commémorations? Et aujourd'hui, on sait que pour la Première Guerre mondiale, et j'ai des exemples, notamment en Serbie, où on va se servir de ces commémorations pour montrer un certain côté de l'histoire. Donc il y a quand même une réserve, une distance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas célébrer, mais il faut être très prudent dans la façon dont on manipule cela. Je crois qu'il n'y a en tout cas pas de guerre propre. Peut-être qu'il y a des guerres justes.
Vaste sujet, vaste sujet. Merci, Monsieur Tissot. Monsieur Leca.
Je vous salue, je vous remercie d'avoir communiqué avec moi pour que je sois ici, pour que je sois ici chez vous. J'ai eu l'occasion, j'ai été invité à Paris dans cette réunion internationale des 24 pays, les principaux pays du monde, pour la mémoire partagée. J'étais un Suisse albanais là. J'ai appris beaucoup ces deux jours-là. C'était très intéressant. Et ces jours-là m'ont fait penser, repenser sur ma vie que j'ai menée pendant 75 ans de vie combative. Ça semble un peu hors norme, mais pas anormal, hors norme, anormal. J'avais 14 ans, presque 14 ans, quand il y a eu l'agression fasciste de mon pays, l'Albanie. Le professeur de français nous a fait un morceau, là, de Alphonse Daudet, La dernière classe. 1970, vous connaissez déjà l'Allemagne d'alors. Et nous avons pris part à la démonstration et nous sommes tous allés nous inscrire dans le bureau de recrutement. Ils ne m'ont pas accepté. Mon frère avait 16 ans, au lycée français d'alors. On l'a admis. Moi, non, j'avais les pantalons courts. Oui, mais 2 ans plus tard, intéressant, mon frère est blessé à 13 ans. Donc plus petit que moi. Il a pris part à la guerre. Et ça semble un peu intéressant. Ça ne peut pas être conçu, surtout ici, en Suisse. Vous avez eu la chance ou le privilège d'avoir vécu dans une société qui depuis 1848, n'a pas connu des problèmes, quand même, pour raccourcir. Alors, voilà, volontaire. Et j'ai fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans plusieurs pays. Italie, Albanie, Serbie, Macédoine et Monténégro. Et à la fin de la guerre, j'avais 19 ans. Qu'est-ce que je peux dire de cette guerre? On nous a imposé la liberté, la liberté. Celui qui l'a connue, qui a connu la soumission, peut dire. Mais vous avez raison à dire que qu'est-ce que ça remembrait, la mémoire ou l'histoire, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais pour moi, il faut que les programmes des écoles et la commémoration de tous ces événements de l'histoire de l'humanité. Indépendamment, chacun, par le passé du temps, devient moins important. Ce sont ceux qui font les programmes qui connaissent ces choses. Pour moi, je suis de l'avis qu'il faut, commémorer. Je ne peux pas, je ne suis pas compétent, je ne connais pas tous les domaines, je suis un homme comme tous les autres. 3 fois diplômé dans mon pays, 12 ans d'études universitaires, et on m'a dit, vous êtes embourgeoisé. Après la libération, imaginez-vous. Pourquoi? Et vous avez envenimé ou empoisonné la jeunesse, parce que je donnais l'italien, le français, l'espagnol, le portugais. Je ne le parle pas encore. Hein. Alors, je donnais le portugais et le russe de Lénine. Je donnais. Mais non, c'était des langues bourgeoises. Imaginez d'où je viens. Donc, je ne vous tiens pas avec ça. Je vous dis seulement que je me trouve bien, je me bats pour la paix. Et il y a 75 ans que je me bats et je suis fier d'avoir fait les bons offices entre l'OTAN et l'UCK, selon la demande de Giorgio Napolitano, Romano Prodi et d'autres. Donc voilà, que je suis vice-président de la Confédération européenne des anciens combattants et je viens ici, même autorisé par mon président, qui m'a autorisé aussi de réhabiliter Maurice Bavaud. Oui, je l'ai réhabilité. Il est membre d'honneur, oui, membre d'honneur de notre Confédération européenne. Je suis venu à votre université ce jour-là de l'obélisque et j'ai donné ça. Voilà, c'est ce qui me lie avec votre Neuchâtel et aussi mes petits-fils sont originaires de Neuchâtel. Il y a un château là que nous avons fait les noces de ma fille, un château quelque part ici. Et oui, il y a un château quelque part ici, je suis venu là et ils sont fiers d'être neuchâtelois. Donc c'est même pour les miens que je suis venu ici. Ça suffit pour le moment.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai peut-être fait une erreur. Je suis partie, enfin je pense que ce n'est pas une erreur, mais je suis partie de l'idée que la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas besoin d'en parler, que vous saviez à peu près tous les principaux éléments. Donc on parle d'un phénomène que je suppose que vous connaissez déjà. Et donc on parle au-delà de l'événement lui-même, on parle, voilà. Si jamais quelqu'un avait des questions sur des événements, vous n'hésiterez pas mais à le dire. Mais enfin, voilà, c'était clause d'ordre. Vous avez maintenant pris connaissance de mes interlocuteurs. Je vais peut-être commencer par redonner la parole au professeur de lycée. Parce que ce que vous avez dit sur les jeunes fasciné par cet événement qui est si loin d'eux, d'un siècle qui leur paraît cinq siècles, comment vous expliquez cette fascination? Est-ce que c'est tardi? Est-ce que c'est la bande dessinée? Comment vous expliquez ça? Approfondissez un peu cette question, s'il vous plaît.
Donc, pourquoi cette attraction? Alors, bien sûr, on pourrait dire que il y a un aspect morbide, ça c'est clair. Et puis la Première Guerre mondiale, curieusement, plus que la Seconde Guerre mondiale, apparaît comme l'horreur absolue, la guerre des tranchées. Et ça c'est quelque chose qui fascine énormément et qu'on retrouve très fortement dans la littérature. J'enseigne aussi le français et je constate que une partie des élèves, moi je ne le prends jamais comme lecture obligatoire pour toute la classe, mais à certains moments ils ont des choix dans des listes, et c'est toujours extrêmement intéressant de voir que les livres qui portent sur la Première Guerre mondiale attirent beaucoup. Alors tout d'abord il y a les témoins directs, et par exemple un classique comme Maurice Genevoix, Seuth 14, Ernst Junger, Orage d'acier, ça marche très très fort. C'est encore des auteurs qui sont des sortes de révélations pour les élèves. De temps en temps, mais c'est un tout petit peu plus complexe, pour le lycée de la Chaux-de-Fonds qui s'appelle Blaise Sandrard, c'est La main coupée. Ou alors, bien sûr, à l'Ouest, rien de nouveau, d'Erich Maria Remarque. Ça, c'est vraiment, on pourrait dire, presque les tubes de la Première Guerre mondiale. Mais alors, de manière très troublante, il y a maintenant les auteurs d'aujourd'hui qui font des romans historiques, et ça marche aussi très très fort. Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, ça attire beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur canadien qui s'appelle Joseph Boyden, Le chemin des âmes. C'est un livre qui marque beaucoup les jeunes. C'est cette histoire de deux Indiens du Canada qui viennent se battre comme snipers dans les tranchées, c'est impressionnant. La chambre des officiers de Marc Duguin. Je pense que Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre va prendre le relais. C'est pas hasardant. Il y a cet attrait-là, ce qui fait que l'imaginaire de la Première Guerre mondiale est très présent, aussi par un autre biais, vous devinez lequel, c'est que c'est la Première Guerre qui a été filmée. Donc on a beaucoup, beaucoup d'images, et vous savez combien il y a tout un travail sur les images, et ce qui fait que bien sûr à l'histoire on leur montre des images, et la guerre des tranchées, c'est fou ce qu'elle est photogénique. Ça marche très fort.
C'est les premiers films d'horreur, donc. C'est les premiers films d'horreur.
Oui, mais il y a une instrumentalisation là-dedans, sachez ça. Vous avez parlé de ça. Oui. Il y a quelqu'un derrière ça. Excusez-moi. Il y a une espèce d'instrumentalisation là-dedans. Sachez qui l'a fait, mais quand même.
Vous avez constaté.
Non, mais d'un côté, on dit protéger les enfants de la violence de la télévision, et d'un autre côté, voilà, les vraies histoires les fascinent. Donc, vous encouragez ces lectures, qu'est-ce que vous dites à des jeunes qui viennent en disant « J'ai lu un bouquin formidable, c'était dur à ce moment-là. » Qu'est-ce que vous leur dites aux enfants? Vous les encouragez, vous donnez le contexte, vous continuez l'instruction historique à travers ces livres?
Bon, tout dépend chaque fois du contexte d'enseignement, mais c'est clair que, je vous donne là un exemple, c'est assez caractéristique, c'est un élève qui a obtenu le prix de l'Institut Neuchâtelois comme premier, donc meilleur travail de maturité en 2012. Et c'est assez fou, voilà un jeune homme qui fait l'OS économie et droit, qui n'est pas du tout spécialement porté pour l'histoire, mais il est fasciné par Verdun. Alors son père l'emmène à Verdun et il décide de faire son travail de maturité en français et d'imaginer un récit où il raconte l'histoire d'un jeune homme qui va mourir pendant la guerre. Le soldat sacrifié. Et je vous promets, c'est absolument pas morbide, c'est une sorte de quête existentielle par l'écriture. Alors, il réussit à le faire mourir, mais en même temps, c'est un travail qui a beaucoup fasciné les jurys, parce qu'on sent que là, il se passe quelque chose d'important dans son propre cheminement. Donc, il n'y a pas du tout, je dirais, une pathologie là-dessus. Mais visiblement, comme le disait peut-être avant le psychanalyste, je crois qu'on a besoin aussi de vivre des moments forts. Et là, malheureusement, la guerre est un moment très fort.
Monsieur Bercier, vous avez quelque chose à ajouter sur les enfants, les jeunes, les étudiants, disons, pas les enfants.
Disons qu'il y a peut-être une chose avant de venir sur l'aspect des enfants, c'est juste par rapport à Tardy. Je suis pas mal intéressé aussi à lui, donc c'est son grand-père qui était
Tardy, le dessinateur
Tardy. En fait, il raconte la plupart de ses histoires sont basées sur les récits de son grand-père. Son père ayant fait, lui, la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a énormément de choses là autour. Et on voit, dans l'univers de Tardy, qu'il est profondément traumatisé, en fait, par les récits de ce grand-père. Et donc, pour moi, ça montre que cette guerre de 14-18 n'a pas seulement touché la génération où les soldats au front, le poilu, ou bien l'allemand, ou l'austro-hongrois, ou même le russe. C'est bien plus que ça. Il y a carrément des générations qui ont été touchées. Et puis, je dis bien génération au pluriel. Donc, pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui est très, 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 très prenante. La deuxième chose, vous posiez la question maintenant par rapport aux jeunes. Alors, pour moi, c'est important qu'on leur en parle. Mais peut-être qu'une erreur est faite, c'est peut-être pour rebondir par rapport à ce que M. Tissot avait dit auparavant, où je ne suis pas tout à fait de son avis. Mais je pense que c'est peut-être la manière dont l'histoire est parlée et discutée aux jeunes qui est un peu problématique. Je pense que si on pouvait faire passer un certain nombre de messages, leur montrer à quel point les choses étaient horribles, peut-être qu'ils comprendraient un petit peu mieux aujourd'hui et ils auraient un peu moins la volonté d'aller s'engager dans je ne sais pas quelle guérilla, aller en Afghanistan ou autre pour partir avec la fleur au fusil. Et je pense qu'il y a peut-être ici une problématique. Et on voit, juste pour faire un contre-exemple qui est dans le positif, mais au niveau de la lutte contre la pollution, contre le gaspillage. Les jeunes aujourd'hui sont super, sont véritablement engagés et très souvent, c'est même les enfants, les jeunes qui vont aller faire la morale aux parents ou bien aux adultes pour leur dire « Ah, ça on ne doit pas faire, ça il faut trier, il ne faut pas mettre dans cette poubelle ». Donc je pense qu'on pourrait aussi arriver à des résultats similaires avec les jeunes par rapport à ces conflits, peut-être pour en faire des moins guerriers, moins agressifs en phase d'adolescence et autres.
Donc vous croyez à la pédagogie de la commémoration et, disons, de l'instruction de l'histoire,
oui, je pensais,
dans un but d'amélioration de l'homme.
Absolument, absolument. D'autant plus que des études ont montré que le soldat idéal, donc le soldat le plus fort, le plus efficace, c'est un soldat qui a 12 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la conscience, il peut faire les horreurs, il n'aura pas cet élément de ne pas faire certaines choses qu'un soldat plus âgé va éventuellement commencer à être... Va venir avec des notions de morale et autres. Donc pour moi, oui, on doit le faire et on doit peut-être le commencer relativement tôt.
Merci. Je voudrais vous donner la parole pour que vous participiez à cette discussion. Monsieur ?
Ma question est la suivante. Merci. Ma question est la suivante. On parle de commémoration, on parle des horreurs de la guerre. On s'imagine, comme vous l'avez fait, donc l'état où une bataille se fait, et puis je m'imagine le soldat ou le lieutenant, et je regarde quelle est la manœuvre, la marge de manœuvre de cette personne dans cette situation-là. Elle est pratiquement zéro. S'il ne fonctionne pas, on l'assassine par les propres rangs, et s'il avance, il a 50% de chance de se faire attraper aussi. Donc on peut dire la commémoration qui se focalise sur la description de cette horreur de l'action, elle ne sert pas grand-chose parce qu'elle n'aide pas à aiguiller d'une manière plus intelligente dans le futur. Donc ma conclusion et ma question en même temps serait à quel moment d'une préparation d'une guerre, à quel moment où les gens ont dit « Ah, celui-là, il est mauvais » ou « ces gens-là, il faut les combattre, ils ont des idées fausses, etc. » Où est-ce qu'on peut, moi je pense un peu, là, je connais la réponse, mais où est-ce qu'on peut commencer et où est-ce qu'il y a une liberté d'action des gens d'aujourd'hui vers le futur? Donc voilà, c'est ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire une commémoration qui se focalise sur les points où l'être humain ou la société a des possibilités d'agir dans un sens, stratégie de paix ou stratégie de guerre. Merci.
Est-ce que je vous comprends bien ? Si je rapporte votre question précisément à la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de la Première Guerre mondiale pour la gestion de la politique aujourd'hui ? C'est ça votre question ? Monsieur Mercier.
Oui, ça va être très court. Mais moi, ma manière de voir la commémoration, c'est deux choses. Un, c'est par rapport à ce soldat qui est mort, qui avait très peu de marge de manœuvre, y compris ses chefs de peloton, les officiers et autres. Mais c'est aussi une manière de juger, je dirais, les politiques. Parce que ces guerres-là, sacré nom de bleu, c'est eux qui les ont faites. Puis à un moment donné, le simple soldat, même l'officier autre, il n'avait pas grand-chose à dire. Il devait le faire, sinon il était jugé. Donc la commémoration, pour moi, a deux éléments. Il y a effectivement pour le soldat inconnu, toutes les victimes, même les mutilés, mais aussi par rapport au politique qui a pris cette responsabilité à un moment donné et qui a amené cette idée, c'est qu'en fait, la guerre, elle va être courte, quoi. Ça va faire en quelques semaines, on peut aller avec la fleur au fusil, et puis qui fait qu'au terme de la guerre, on arrive avec justement un avis complètement contraire, c'est de dire c'est la der des der, c'est tellement horrible, c'est pas possible qu'on puisse imaginer pire, donc de toute façon, il n'y en aura pas après ça. On a vu l'horreur absolue, puis en fait, on voit bien que c'est pas fini.
C'est une question très difficile que vous posez, que, en tout cas sur la Première Guerre mondiale, on se pose depuis 100 ans, c'est-à-dire comment ça s'est passé et pourquoi on est arrivé là. Enfin, c'est la recherche des causes. Et là, alors, vous avez une vaste forêt de lecture à faire, où vous aurez beaucoup de thèses qui vont s'opposer, dans la mesure où... Il y a peut-être des événements qui dépassent l'être humain, il y a peut-être des dynamiques à un moment donné qu'on n'arrive plus à maîtriser, quel que soit le camp dans lequel on se trouve. Alors c'est vrai que les Allemands, beaucoup d'Allemands ont été choqués dans la façon dont les vainqueurs de la guerre l'ont interprété. Ce qui a, paraît-il, été d'une des causes de l'avènement du nazisme, en tout cas, ce qui a permis à Hitler d'amorcer son mouvement. Mais c'est une bonne question quand même, parce que peut-être on a trop rapidement résolu ces questions au regard des vainqueurs. Et bien sûr, de la part des vainqueurs, on a des coupables. Alors pour la Deuxième Guerre mondiale, peut-être la chose est beaucoup plus claire qu'elle l'a été pour la Première Guerre mondiale. Et moi, je suis quand même très, peut-être plus prudent dans les explications qui ont été parfois données par des historiens qui, voilà, l'impérialisme ou les nations qui veulent prendre des parts de marché dans une économie qui devenait planétaire, et puis ensuite, bon, ben voilà, lui n'est pas d'accord, et puis on arrive à un assassinat à Sarajevo qui enclenche les choses. Mais peut-être que ça, les acteurs n'ont pas forcément la liberté et l'autonomie de le faire. Moi, j'aimerais bien avoir des coupables politiques. Mais où ils sont ? Est-ce que les acteurs, sur le moment, est-ce qu'ils voient l'avenir ? Peut-être pas. Alors, il y a des calculs, mais il y a des décisions qui sont prises et qui, peut-être, ne donnent pas les conséquences que l'on croit, mais d'autres, peut-être plus petites, qui arrivent à des conclusions désastreuses. Mais j'aimerais ajouter un point à ce qui est dit tout à l'heure sur Blesse-Sandrars. Parce que Blesse-Sandrars a écrit un texte qu'il n'a jamais voulu publier. C'est un petit texte où il narre une action qu'il a entreprise en tant que volontaire. Je crois que c'était en 1917, Il s'est déclaré volontaire pour aller achever les blessés allemands qui se trouvaient dans une tranchée. Il a intitulé ce texte « J'ai tué ». C'est un texte qu'il n'a jamais voulu publier. Et c'est après sa mort qu'on l'a publié, où il dit ce que c'est de tuer. C'est-à-dire que c'est un acte pour lui. Et même s'il a décrit la guerre avec les mots qu'il a décrits, et c'est des textes très forts, mais ce texte-là, il n'a jamais voulu le publier parce que peut-être il n'arrivait plus à supporter ce qu'il avait fait. Alors peut-être qu'on a des vétérans ici, des gens qui ont participé à la guerre et qui savent ce que ça veut dire d'être dans des situations où il faut tirer, et on sait qu'en tirant, soit si on ne tire pas, c'est nous qui disparaissons, mais si on tire, on va supprimer une vie. Et peut-être que cet élément-là, peut-être, devait être mis en évidence dans les commémorations. Parce que les guerres, c'est ça, c'est de tuer. C'est de tuer un être humain. Alors on sent qu'il est mauvais, bien sûr, parce que si on tue celui qui est désigné comme l'ennemi, ce ne sera pas nous qui passerons. Mais l'acte, quel qu'il soit, reste quand même d'une puissance. Et je peux comprendre, mais je n'ai jamais tué personne, mais je peux le comprendre que finalement c'est un texte qu'il n'a jamais voulu publier, parce que finalement quand il le lisait, il se disait « mais est-ce que c'est bien moi qui ai tué ?»
Messieurs les vétérans, est-ce que vous avez un commentaire sur cette question? Un acte de tuer qu'on lit par quelqu'un qui a tué, qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce qu'on devient meilleur quand on l'a lu? Est-ce que ça nous protège de mauvaises actions politiques, de mauvaises fréquentations politiques, de fréquentations politiques peut-être violentes? Qu'est-ce que c'est la pédagogie de la guerre? Moi, je reste encore sur ma faim, donc expliquez-moi.
Puisque j'ai fait la guerre, il faut que je vous confie comment je l'ai faite. Heureusement, la Providence m'a sauvé de ne pas avoir tué de près quelqu'un et de voir du sang. Mes compagnons ont tué, faisaient des attentats. Ils étaient fiers de l'attentat. C'était la psychologie de la guerre, c'était l'ennemi. Vous parlez ici, vous avez tout. toute une autre mentalité sur la guerre et sur vous-même, sur la vie humaine. J'ai fait des actions durant la Deuxième Guerre mondiale que selon les historiens, non, les présidents des historiens militaires, sont rares en Europe et outre. Je n'étais pas conscient. Je suis entré dans la... chez le ministre, là. Il avait des bodyguards. Et je lui ai imposé de signer en blanc. Volens, Nolens, le ministre a dû signer. Mais s'il n'avait pas signé, j'aurais tué le ministre, j'aurais été tué. Parce qu'il s'est dit, mais vous, comme le ministre m'a dit, attention, vous perdez la tête, j'ai dit au ministre, signez. Il m'a dit, mais vous aussi. Oui, mais moi, je suis venu ici et j'ai prévu ma mort. Tandis que vous, non. Et j'ai fait une erreur. Vous laissez vos enfants. Moi, j'ai laissé mes parents. Quand je pense maintenant, si mon fils aurait fait ça, imaginez-vous. Hein. Excusez-moi du temps, mais c'était terrible, ça. À la fin, il a signé. Je suis sauvé. Et d'autres actions qui sont les plus téméraires, les plus dangereuses, avec plus de dangerosité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont publiées à la télévision et partout. Et on dit maintenant qu'un héros de la Deuxième Guerre mondiale. On parle d'héroïsme des journaux par-ci, en Europe et partout. Des documentaires sont faits parce que pendant 50 ans, on ne m'a pas reconnu ma guerre. Je n'ai pas prétendu. On me considérait ennemi du peuple. Je n'avais rien fait. Je ne me suis pas soumis à la dictature parce qu'on nous a imposé, instauré la dictature. Imaginez-vous se battre, laisser le collège à Cicognini à Prato pour entrer en Albanie où on nous menait chaque deux semaines à l'opéra et pour me battre. Voilà, c'est ça. Donc, heureusement, mais moi aussi, j'aurais tué. Heureusement, la Providence m'a sauvé de n'avoir pas dans ma conscience ce poids.
Voilà, mais vos actions connues, lues par le public, par vos descendants, est-ce que ça leur apprend quelque chose de vous, mais est-ce que ça leur apprend quelque chose de la vie et de eux-mêmes dans le futur, Monsieur Kaub?
Alors, il est probable que les générations qui prennent connaissance de l'histoire ou de ce qu'on peut leur apporter comprennent aussi les difficultés qu'il y a et les raisons des conflits. Alors ces raisons des conflits, on les connaît maintenant, la plupart du temps elles sont économiques et ce sont des questions d'hégémonie. Bien souvent ce sont des questions aussi individuelles. C'est un homme qui mène un peuple, on peut dire ça comme ça, avec des théories, et le peuple, lui, comme une âme collective, suit le mouvement. Et quand vous avez une compagnie de 40 ou 50 hommes qui marchent au pas, le 51e, il marche aussi. Donc il y a un effet de masse qui est absolument indestructible. Qu'est-ce qu'on en apprend? Alors même si on apprend quelque chose, si en soi-même, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est juste ou pas? On ne peut pas se poser la question. Parce que l'effet de masse annule complètement votre raison. Donc vous suivez comme un mouton, et ce n'est qu'après que vous avez peut-être des remords, ou qu'après vous essayez d'imaginer les conséquences de vos actes. Sinon, il n'y a rien, on devient des machines et on obéit. D'ailleurs, l'armée, en France, il y avait, comment est-ce que ça s'appelle, parce que maintenant mes souvenirs, le règlement qui disait la force, la discipline est la force principale des armées. C'était la première phrase. Et il fallait être discipliné. Parce que l'armée n'existait que par la discipline. Et on ne pouvait pas y déroger. Donc.
Bonsoir. Je prends la parole un petit peu au titre des fonctions qui sont les miennes aujourd'hui. Je suis français et je travaille à l'ambassade de France en tant qu'attaché de défense. C'est-à-dire que je suis un petit peu le représentant du ministère de la Défense français au sein de l'ambassade de France. Et au titre de, justement, de ce périmètre de prérogative, eh bien, le devoir de mémoire et le souvenir prennent une place, je dirais, pas forcément de premier plan, mais néanmoins assez importante. Et je salue d'ailleurs Marceau Cobb, dont je connais le travail effectué ces dernières années au titre du souvenir, justement, et que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Alors, je suis arrivé avec un petit peu de retard et j'espère n'avoir rien manqué. Moi, j'aimerais revenir sur une chose qui n'a pas été évoquée dans le panel de témoignages qu'on a entendu. C'est commémorer, c'est aussi rendre hommage. C'est-à-dire que beaucoup des victimes des conflits que l'on commémore aujourd'hui ont payé de leur vie une démarche visant, très noble la plupart du temps, visant notamment à restaurer des valeurs de liberté, de démocratie, etc. On peut évidemment débattre du bien fondé des conflits, mais in fine, souvent, au moins dans les grands conflits que l'on commémore aujourd'hui, il y a toujours ces valeurs-là, et puis il y a toujours ces gens qui ont finalement donné leur vie, alors dans un esprit soit très patriotique, soit simplement pragmatique. Voilà, je ne veux plus vivre sous le joug de telle puissance, et je veux restaurer des valeurs qui sont les miennes, etc., etc. Et je pense que pour ça, au moins, on doit perpétuer le souvenir. Voilà, tous les listes de noms qui figurent sur des monuments aux morts, il faut qu'elles parlent aux gens qui vivent aujourd'hui pour ne pas que soit oublié ce sacrifice-là. Moi, pour moi, ça me semble quand même assez fondamental. Je ne sais pas si ça a été évoqué en début de débat, mais voilà, avant même de penser à justifier un conflit, il faut simplement rendre hommage à ceux qui y ont laissé leur vie. Et ça fait partie des messages que l'on doit passer aux plus jeunes. Voilà, pas d'oubli pour ces gens-là qui ont donné ce qu'ils avaient de plus cher sur Terre, c'est-à-dire leur vie. On peut discuter après des heures, encore une fois, du bien fondé d'un conflit, mais surtout quand on pense que beaucoup de ces gens-là, comme le disait un des intervenants, n'ont pas forcément choisi eux-mêmes d'aller faire la guerre. Donc voilà, c'était une chose que j'avais envie de dire.
Merci. Merci, monsieur.
Merci. Je voulais intervenir un peu sur la même idée. D'une part, de dire que les commémorations, elles ont un rôle, monsieur a dit, de récompenser, mais aussi de pacifier la société à un moment donné. Et puis, elles ont j'y vois un autre rôle qui est important, et dans ma position à la fois d'historien et d'éditeur, je trouve que c'est important, c'est le rôle de créer une histoire et créer une histoire commune. J'ai aussi travaillé à la commission Berger, j'ai été agressé plusieurs fois verbalement, juste parce que j'y étais, parce que les gens avaient l'impression qu'on défaisait l'histoire, et je crois, je pense qu'il est important que l'histoire soit étudiée, analysée, discutée dans la société. Et je crois que les commémorations sont pour les historiens une occasion de revisiter l'histoire et puis de faire en sorte que la société se l'approprie. Je crois que toutes les sociétés ont besoin d'une histoire, comme toute personne a besoin de connaître son histoire. Et moi, je vois là le rôle de ces commémorations aussi dans le sens où il faut redonner l'histoire à la population, l'analyser à nouveau avec les pensées, les systèmes de pensée qui ont évolué. Peut-être 100 ans après, on n'analysera pas la Première Guerre mondiale comme on l'a analysé auparavant.
Monsieur ?
Pardon. On commémore, mais qui commémore ? Les vainqueurs ou les vaincus ? Et puis, ça nous renvoie à la question que Monsieur Tissot et un autre intervenant évoquaient tout à l'heure, c'est celle de l'instrumentalisation. Alors, qui commémore et où est l'instrumentalisation ? Pardonnez-moi.
Non, mais c'est la question fondamentale, parce que je pourrais répondre, mais je suis d'accord avec vous, monsieur, et on a des vétérans là qui méritent notre immense respect pour ce qu'ils ont fait, et c'est évident. Mais vous avez chaque année une cérémonie au Japon où le Premier ministre actuel s'est rendu, il s'est rendu où ? Bien, il a commémoré des soldats japonais, des officiers japonais qui se sont avérés des criminels de guerre. Et ce Premier ministre va commémorer cela. C'est-à-dire qu'il va prendre acte d'un fait de guerre. C'est-à-dire que le Japon est entré en guerre, a commis des crimes de guerre. Ils ont été jugés comme ça. Et aujourd'hui, le Premier ministre se rend encore dans ce lieu où sont enterrés ces gens-là. Et c'est ce qu'il dit exactement comme vous. Donc il faut faire très attention à ce que l'on commémore, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous et qu'est-ce qu'on commémore ? Est-ce qu'on commémore des criminels de guerre ou des gens qui se sont battus parce qu'ils avaient l'impression que leur liberté était en danger et qu'ils avaient de bonnes raisons de se soulever et de s'engager et de finalement risquer sa vie pour défendre des valeurs auxquelles ici tous on croit. Mais je pense qu'il est absolument essentiel, et peut-être pour les commémorations qui vont venir, de savoir mais qui est là-dessous ? Et qui organise cela ? Pas que le public soit complètement trompé, manipulé, et finalement, on commémore des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on défend et ce qu'on croit défendre.
Merci. Oui.
Il y a une histoire de la commémoration. Comme on commémore l'histoire, mais il y a une histoire de la commémoration. Si on revient à la Première Guerre mondiale, c'est absolument impressionnant de voir l'évolution en un siècle. Sur ce qu'on commémore et comment on commémore. Et je vous rappelle, pour prendre qu'une étape assez connue, c'est celle de la commémoration de 1997. À l'époque, c'était Laurent Jospin, Premier ministre. Il a osé inclure dans l'honneur de la France tous les morts pour l'honneur, j'ai plus l'expression maintenant, tous ceux qui ont été fusillés de manière injuste. Et vous connaissez tous aussi l'histoire du pantalon rouge, par exemple. C'est toutes des histoires qui montrent qu'aujourd'hui, dans l'historiographie de la Première Guerre mondiale, on se pose beaucoup la question comment les gens sont morts, et tous ceux qui sont morts parce qu'ils n'ont pas déserté, mais ils ont été fusillés, ils ont osé se mutiner en 1917. Donc il y a aussi tout un panel très grand, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose même la question, est-ce qu'ils finalement ils étaient consentants ? Alors il y a des historiens qui prétendent, oui, la grande majorité était consentante. Donc vous voyez que là déjà aussi, on se heurte toujours à une difficulté de savoir, mais finalement, qui en commémore ? Et moi, je trouve très révélateur que ce soit un représentant de la France qui vienne et qui nous dit « il faut rendre hommage à nos morts ». Parce que c'est clair que nous, Suisses, quand nous allons en France, dans le moindre village, nous sommes toujours impressionnés par la liste des morts. Donc, respect, aucun doute. Mais d'un autre côté, c'est vrai que nous, en Suisse, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de morts à commémorer. On a autre chose à commémorer. Par exemple, il y en a un sur le Creux du Vent. C'est un brave soldat pendant la mobilisation. En 1940, il est tombé. Il montait la garde la nuit et puis il est tombé au Creux du Vent. Ben, il est mort pour la patrie. Mais ça fait un peu saugrenu si on compare avec d'autres pays. Mais je trouve qu'il faut toujours être très, très attentif sur, en effet, qui commémore. Et je vous donne un autre exemple, peut-être moins connu. C'est la Festa della Liberazione le 25 avril 1945. C'est un moment très important pour la commémoration de la fin de la guerre en Italie. Et là, il se passe quelque chose qui est en fait un gros problème, c'est qu'il y a un mythe qu'à la fin de la guerre, la résistance italienne, en se soulevant, a permis la libération du pays. Et aujourd'hui, les historiens les plus sérieux en Italie disent « mais en fait, c'est une histoire beaucoup plus compliquée ». Et ce qui s'est passé entre 1943 et 1945 en Italie, ce n'est pas seulement la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la guerra civile, où il y a eu beaucoup de morts dans tous les sens et des choses absolument atroces entre Italiens. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, commémorer le 25 avril 1945, ça pose pas mal de problèmes. Et c'est un aspect que, par exemple, les professeurs des lycées italiens n'abordent jamais. J'étais une fois à un cours de rencontre avec des enseignants italiens. Eux, c'est simple, ils présentent l'histoire de l'Italie et ils s'arrêtent en 1920. parce qu'après, ils ont d'énormes problèmes avec les comités de parents, s'ils commencent à aborder le fascisme. Et puis alors, la Seconde Guerre mondiale, pauvres Italiens, moi, je les comprends, comment aborder cette histoire, cette mémoire-là, pour les élèves. Donc, vous voyez que là, il y a des commémorations extrêmement compliquées.
Voilà, je voulais peut-être rebondir un petit peu sur ce que le représentant français vient de dire. C'est clair que si je me place maintenant sous ma casquette de stratégiste, dans ma fonction militaire et tout, c'est clair que c'est un beau discours qui est aussi un discours de fonction. Maintenant, et puis c'est, je pense qu'il y a une appropriation aussi à un moment donné, c'est par l'État, de l'histoire de ces soldats. À un moment donné, le soldat qui a vécu sa propre guerre se voit aussi désapproprié par l'État qui reprend ses droits par rapport à ses aides qu'il a envoyées, disons, sur les champs de bataille. Ça, c'est quand même un élément. Maintenant, le discours, il est logique, il est sain, à la rigueur, j'ai envie de dire, même s'il est instrumentalisé très clairement. Mais voilà, maintenant... ce discours-là, je ne pourrais pas le poser, je ne pourrais pas le tenir dans d'autres circonstances, dans un autre apparat et autres. Mais disons, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même les circonstances qui font que... Mais je trouve que bien des soldats, pour avoir lu et quand même bien étudié aussi le sujet, bien des soldats ne se retrouvent absolument pas par rapport à ces commémorations. Et pourtant, ben, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre, mais certains se sentent désappropriés par rapport à des choses qu'ils ont vécues aussi peut-être comme étant très douloureux.
Voilà, oui. Donc, je suis Karine Scopia, une professeure de langue et civilisation française à l'université. Donc, moi, j'enseigne aussi l'histoire à des étudiants d'origine étrangère. J'ai souvent 35 pays en face de moi. Et souvent, forcément, quand on parle des guerres, il y a toujours des gens des deux camps. Hein. Et vous posiez la question, qui commémore ? Il me semble qu'il y a un véritable soulagement au moment où on pose les faits, où on peut expliquer les choses en étant, on ne peut pas être objectif, mais en étant serein. Dernièrement, une étudiante allemande était très très inquiète parce qu'on abordait la Deuxième Guerre, on a lu des extraits de Mein Kampf, ce qu'elle n'avait jamais fait en Allemagne d'ailleurs, parce que c'est interdit, hein, enfin ça ne se fait pas à l'école. Et elle est venue me remercier pour me dire, ben voilà, maintenant, je suis plus en paix par rapport à mon histoire, et entre camarades aussi, il y a une certaine pacification. Donc là, l'enseignement, la commémoration me semble nécessaire aussi pour enlever toutes ces fausses idées, pacifier les choses. Et puis après, on peut arriver avec l'émotion qui est aussi absolument indispensable. Hein. J'ai des étudiants qui savent à peine qu'il y a eu deux guerres parce qu'ils viennent de Nouvelle-Zélande, de Chine ou d'Amérique du Sud. Puis quand je leur dis, ben moi, mon grand-père, il a été prisonnier, toute ma belle famille était dans les camps de concentration, voilà. Du coup, il se passe quelque chose, quoi. Donc, émotion, mais d'abord pacification avec les faits. Et ça apporte vraiment une certaine sérénité. Je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre aux nouvelles générations à aborder l'histoire et aborder l'avenir aussi de manière plus sereine.
Je vous en prie, allez-y.
Et vous avez bien traité les problèmes du Japon, mais il faut faire trier les choses. Et vous aussi, le cas que vous avez présenté, il faut que des commissions spécialisées étudient ces cas pour les caractériser s'il vaut la peine de les traiter, de les commémorer ou non. C'est délicat, ça. Il faut. Ayant été conseiller de la Fédération mondiale des anciens combattants avec 37 millions, nous avons un problème avec les nazis. On nous disait que les nazis n'avaient pas le droit d'être anciens combattants. Mais c'était la constitution d'Hitler. S'il ne prenait pas part, il était fusillé. Il a fait le devoir envers sa patrie. Pourquoi devraient les soldats, les SS, là, être responsables, indépendamment des crimes qu'ils ont pu faire, mais comme soldats? Et nous avons décidé qu'ils soient membres, et ils sont membres. Et Jacques Chirac, Schröder est venu en Normandie, j'avais dans mon groupe aussi un SS. On parlait avec les SS, l'ennemi d'autrefois. Et ils sont venus là, ils ont commencé, il y a la photo ici, ils ont commencé les félicitations avec les anciens combattants. C'était la réconciliation après 140 ans, 44 ans, avec nous, là. Les SS étaient avec nous. Donc, attention à ces choses. On ne peut pas stigmatiser. Non, non. Donc, attention, hein, attention, vous avez raison. Avec nous, le Japon, le Premier ministre doit penser. Qu'il doit, tandis que le peuple et le gouvernement doivent respecter les soldats japonais qui se sont battus pour leur patrie. Et même ces kamikazes qui sont jetés là, ils ont donné la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Pour leur patrie, dans leur sens. Ça suffit parce que je ne veux pas.
Merci beaucoup, parce que ça rejoint ce que j'avais un petit peu envie de dire. Alors, au passage, je voulais signaler, j'ai dit de manière très formelle que j'étais le représentant du ministre de la Défense. En fait, je suis officier d'actif, donc ma tenue ne le montre pas ce soir, mais moi, je suis militaire. Et quelque part, mon discours, avant d'être celui d'un représentant étatique qui aurait pu s'approprier un discours tout fait, mon discours est celui d'un homme qui a des valeurs, et puis accessoirement celui d'un militaire aussi, qui croit profondément en ses valeurs. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le Karine Skupien vient de dire, ainsi que M. Leka. Je crois que la volonté actuelle de pacification, de réconciliation, d'accord, quelque part, de volonté d'autoriser le repenti, elle est importante. Je vais vous donner un exemple concret. Je vous parlais tout à l'heure de prérogatives qui touchent au devoir de mémoire. Parmi ces prérogatives, il y a évidemment l'organisation des grandes cérémonies de commémoration, y compris ici en Suisse. Cérémonies de commémoration que l'on limite au 11 novembre et au 8 mai pour de simples raisons de capacité et de personnel disponible. Mais cérémonies auxquelles participent d'ailleurs énormément de Suisses. Eh bien, la dernière cérémonie, peut-être à laquelle certains d'entre vous ont assisté à Genève, s'est faite en présence de la consule générale de France et de son homologue allemande, en présence d'élèves de l'école française et en présence d'élèves de l'école allemande, et en présence de l'attaché de défense français et de mon homologue allemand. Et tout ça dans une vraie volonté qui, à mon sens, j'espère ne pas pécher par excès de naïveté, dépasse les simples conséquences du traité de l'Élysée, le rapprochement franco-allemand, pour des raisons purement politiques que tout le monde connaît. Non, je crois qu'il y a aussi, quelque part, une certaine illustration de la fraternité de cœur a posteriori, justement, pour essayer de rendre cet hommage eh bien, avec les deux nations belligérantes. Voilà.
Madame.
Oui, sur le même sujet, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Mon grand-père était dans les tranchées en 14, et le premier hiver, ils ont fêté Noël ensemble, les Allemands et les Français. Hein, et je viens de lire un livre, Joyeux Noël, c'était justement ce sujet.
Il y a un monsieur qui voulait... Voilà.
Oui, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Belou Barami, je suis albanais, je viens du Kosovo. Donc nous, on vient de sortir d'une guerre. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai étudié à Sarajevo, donc j'ai fait la médecine à Sarajevo. Donc j'étais jeune, quand il y avait ce moment contre justement cet régime communiste que M. Leka il a vécu tout jeune. Et nous, on est à la fin. Alors, moi, au niveau des commémorations, donc on prend par exemple la Serbie. Elle fait la commémoration en 1400 et quelque chose, donc la guerre contre les Turcs, donc la victoire, au fond. Donc à la fin, vous le savez très bien, les historiens, que c'était la paix, donc ils n'ont pas gagné la guerre, ils n'ont jamais gagné la guerre. Mais quand même, donc pour moi, c'est une lavage du cerveau à la population. Et puis, on utilise justement ce genre de commémoration pour augmenter cette violence au peuple. Et puis, ce qui s'est passé justement dans la dernière guerre que vous avez tous vécu comme moi. Donc, moi, j'étais un participant passif de cette guerre, parce que quand même, c'est une guerre de libération. Qui fait que, donc, nous, on était poussés à participer à cette guerre pour la libération. Qui fait qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord de commémorer les victimes de la guerre, de la dernière guerre chez nous, et quelque part, je suis fier parce que c'est grâce à ces sacrifices que nous, on a aujourd'hui cette liberté. Et peut-être que la communauté européenne a pris, donc a appris un petit peu, justement, de connaître les pays déjà. Et en même temps, je pense que les historiens, est-ce que je me pose souvent la question, est-ce qu'on écrit l'histoire de jour et lendemain, ou bien on prend quelque chose qui est en continuité. Alors, c'est ça qui est pour moi, donc, comme jeune 50 ans aujourd'hui, que je me pose la question, est-ce que c'est vraiment, ça vaut la peine de faire ça, ou bien vraiment, on apprend quelque chose, et puis qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Je vous donne un exemple encore. Je suis un prof de sport, donc j'enseigne le kickboxing. Vous voyez, un petit peu, si on parle des commémorations. Donc, je monte deux élèves sur le ring, et puis je l'apprends, donc je fais un lavage de cerveau, je dis, écoute, c'est ton ennemi. Moi, j'appelle comme ça, je dis, il y a ta maman et sa maman à côté. Donc, vous êtes deux. Alors, ou tu pleures parce que ta maman, elle va pleurer parce que tu as perdu, ou bien tu vas gagner et puis ta maman, elle sera tout contente. Et puis, tu laisses l'autre. Ce qui fait que quand même, on a un certain égoïsme qui est là-dedans et c'est l'être humain. Malheureusement, on ne peut rien faire. Mais moi, je pense que les historiens, quelque part, pour moi, ils font une faute parce qu'ils veulent mettre, ou bien c'est le gagnant qui crée l'histoire. Donc, c'est ça qui est un problème que souvent je me pose des questions et j'arrive plus à parler à mes enfants de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que je dois y inclure dans la tête de dire écoutez, la guerre qui a été excellente, puis mon frère qui a participé, puis mes parents, qu'on a tout perdu. Mais au niveau de. Je rajoute juste peut-être encore ça. J'ai rentré chez moi le lendemain, quand les troupes allemandes, disons donc l'OTAN est venue, le lendemain, je rentre aussi. J'avais une haine. J'avais une haine énorme parce que tout ce qu'on a construit pendant toutes ces années, elle était. Vraiment, c'est du centre qu'on a trouvé. J'ai un peu des émotions. Hein. Mais ici, à Neuchâtel, j'ai une école et j'ai des Serbes dans ma classe. J'ai donc des enfants serbes qui sont entraînés chez moi. Même pendant la guerre, ils étaient là. Puis je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai les accepté pour moi parce que ce n'est pas notre faute. On nous a imposé. Et alors, les historiens, je vous laisse la parole à vous de voir si vraiment il faut écrire l'histoire simplement parce qu'on a un intérêt politique actuel. Ou bien c'est vraiment, on dit la vérité aux gens et puis que tout le monde sache pourquoi. Merci.
Merci, monsieur. Votre intervention me donne l'idée de la suite de cette discussion sur la réconciliation, justement. Parce qu'on commémore 14, donc le début de la guerre. Est-ce que la commémoration de la réconciliation... Hein, Mitterrand-Kohl, la Verdun, le 11, l'armistice, le 8 mai, est-ce que ce sont des moments qui sont aussi forts, par exemple, dans l'enseignement? Est-ce que ça laisse autant d'impressions, la réconciliation, que le début des hostilités? C'est une question que j'ai pour les enseignants, les psychologues, hein, et vous, monsieur le professeur de lycée.
C'est une vaste question parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la fin d'une guerre est un moment toujours... très triste et c'est vrai que par exemple le 11 novembre on a plutôt envie de parler du coup de poignard dans le dos et puis de voir déjà ce qui se profile, déjà la seconde guerre mondiale qui arrive, donc on a de la peine à être soulagé le 11 novembre. Par contre le 8 mai 1945 quand on voit les images, moi une des plus belles images que filmées de la seconde guerre mondiale, c'est les Américains qui arrivent à Paris. Puis qu'ils ont toutes ces Françaises qui nous embrassent. Et on a l'impression que tout à coup, c'est un vrai bonheur. Hein. On a les GIs qui témoignent de ça. Donc, c'est vrai que je trouve que la réconciliation est quelque chose de très important. On a évoqué le chancelier Gerhard Schröder et le président Chirac. Moi, comme enseignant d'histoire, c'était les journées suisses d'histoire à Berne, il y a quelques années. On a eu tout à coup un séminaire et on a eu l'attaché culturel de la France et l'attaché culturel de l'Allemagne qui venaient ensemble. C'était quand même, pour nous, les Suisses, c'était un très beau geste. Et voilà ce qu'ils nous ont présenté. Et c'est devenu le manuel de référence des lycées neuchâtelois. C'est celui qu'on utilise. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Nathan. C'est le manuel utilisé dans les lycées en France et en Allemagne, pas par tous bien sûr, mais c'est une proposition qui vient justement de la rencontre entre Chirac et Schröder. Et c'est absolument magnifique parce que c'est des historiens enseignants en allemand et français qui font ensemble le même manuel qui est édité en allemand et en français. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir comment la Première Guerre mondiale est présentée. On ne cache rien, hein, tout est évoqué, mais c'est évoqué dans les deux camps. Et quand on parle de la mémoire, par exemple, c'est intéressant de voir que les Français fêtent toujours le 11 novembre, les Allemands, on peut comprendre, mais il y a un trou béant, il n'y a pas de commémoration, il n'y a rien. Donc là aussi, c'est des choses très intéressantes. Et il y avait une émission sur Arte qui présentait ce manuel avec des jeunes Alsaciens, etc., qui montraient comment cette histoire-là est aussi très, très importante. Donc on ne fait pas que de l'histoire bataille, hein. L'histoire mémoire réconciliation, c'est aussi un moment très important.
Est-ce que les ressentis chez les étudiants, est-ce que vous avez un étudiant qui va vous faire un mémoire comme celui qui a fait le travail sur la guerre? Est-ce que vous avez un étudiant qui est tellement pris par le magnifique moment d'une réconciliation et qui veut vous écrire un texte sur la réconciliation parce qu'il est habité par la beauté de la réconciliation? Est-ce que ça existe?
Pas vraiment.
Il aurait fallu que ça existasse. Oui. Ça existe. Je suis ancien. Hein. Okay. Existasse.
De manière subjonctive.
Parce qu'on a fait toute la construction européenne sur l'idée de la réconciliation, quand même. Et maintenant, j'ai tendance à entendre tu nous casses les pieds avec ce que c'est fait, c'est réconcilié maintenant. Il faudrait que l'Europe ait un autre discours que celui de la réconciliation. C'est seulement 50 ans, c'est pas 60 ans. On n'invente pas des discours aussi forts tous les 60 ans. Mais ce discours lasse. Le discours de la réconciliation, je pense, il lasse. Le discours sur la guerre, il lasse pas.
Je vais peut-être juste dire... C'est que bon, le discours pour un adolescent, un enfant ou un adulte n'est pas le même. L'adolescent aura besoin d'action, d'émotion, et puis de sentir les choses captivées. Donc quand vous faites un récit sur une bataille, je veux dire, vous avez l'action, vous avez les émotions, vous avez éventuellement des côtés héroïques et tout. Donc si maintenant on voulait faire passer un message à l'adolescent sur l'aspect plus gai ou disons plus joyeux, plus constructif qu'est la réconciliation et tout, il faudrait qu'on essaye de suivre un peu ces règles-là. Il faudrait qu'on fasse un discours qui soit à la fois actif, avec beaucoup d'action, avec un certain suspense, quelque chose qui est tenu et avec les émotions. Et là, on arriverait à les tenir et faire passer le message. Parce que les jeux de guerre, si ça marche bien, c'est pas forcément parce que c'est bien construit puis que c'est joli. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Ils sont complètement, ils sont sous l'eau tellement.
Un gagnant, un perdant, voilà. C'est formidable.
Ouais. Et puis on recommence toujours en plus.
Et ça recommence toujours.
Ouais, et puis donc, on est éternel.
Merci pour la pédagogie. Merci pour la pédagogie, puisque ça recommence toujours.
Moi j'aimerais revenir sur l'intervention de monsieur qui est tout à fait. Très importante. Il y a peut-être un événement maintenant que nous, les Occidentaux, enfin ceux de l'Europe, devraient étudier, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec Mandela. Parce que là, on a un cas d'école extraordinaire où les événements auraient pu prendre une tournure absolument tragique. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe, l'État un peu plus au nord, où là, on a eu un étripage entre noir et blanc. Et encore, c'est encore le cas aujourd'hui. Et avec Mandela, il est arrivé un moment, un tournant, où tout pouvait dégénérer. Et il a pris des décisions de courage extraordinaire de dire le pardon, tout de suite et maintenant. Quelles que soient les conséquences que ça peut causer sur les victimes nombreuses, et Mandela est un noir, et la majorité de la population sud-africaine est noire, et ce sont eux qui ont été victimes pendant plusieurs décennies, d'un apartheid, d'un régime qui était honteux. Eh bien, je pense qu'on devrait s'interroger mais comment cela s'est passé et comment cet homme a réussi, même si aujourd'hui la situation n'est pas drôle en Afrique du Sud, mais en tout cas il a réussi un véritable massacre qui avait peut-être toutes les raisons d'avoir lieu. Mais ce massacre n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des décisions à un moment donné et un homme qui a réussi, par son charisme, à finalement dire « faisons autrement ». Et je pense que pour les régions que vous avez mentionnées, pour le conflit que vous avez mentionné, il y a peut-être à chercher les raisons pour lesquelles ça a été possible ailleurs et que ces blessures qui ne guérissent jamais, elles peuvent guérir finalement. Et toutes les commissions de réconciliation qui ont eu lieu en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et ailleurs, elles n'ont pas toutes abouti à des résultats positifs. Mais en tout cas, c'est un processus qui a permis des blessures de guérir peut-être plus rapidement qu'elles ont guéri en Europe.
J'aimerais poser une question précise à M. Juncker. Dans cet ouvrage d'enseignement, est-ce qu'il est question de l'enjeu principal qui était sous-jacent à cette guerre, cette Première Guerre mondiale ? Il s'agissait tout de même que Français et Britanniques se liguent pour damer le pion aux Allemands. Et c'est prouvé par l'accord de Sykes-Picot en 1916. Est-ce qu'il est question de cet enjeu dans ce livre ? Est-ce que le mot « pétrole » y figure ?
Je vous laisse vérifier, bien sûr, parce que l'accord Sykes-Picot, c'est surtout lié à l'histoire de démantèlement de l'Empire ottoman. Alors là, c'est quelque chose qui est très clair, du point de vue historiographique, il n'y a aucun doute de dénonciation de cette pratique coloniale. Donc je crois que là, il n'y a pas de difficulté pour faire la clarté là-dessus. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit sur l'histoire heureuse. On a ce qu'on appelle les options complémentaires où on peut sortir du programme. Alors, on s'attaque de temps en temps à des sujets qui sont peu étudiés. Alors, je vous donne un exemple. Avec un collègue espagnol, on s'est dit, tiens, on va faire l'histoire moderne de l'Espagne. Et je pense que...
Moderne.
Hein, vous connaissez tous cette histoire et vous vous dites, forcément, ça va être une histoire magnifique. Les élèves vont être emballés. Ils ont tiré une tête et ils nous ont regardé et dit, oui, mais l'histoire de l'Espagne, c'est un peu comme la Suisse, c'est l'histoire heureuse, il ne se passe pas grand-chose. Ils n'ont même pas vécu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous venez ? L'Espagne, c'est les vacances. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Et on est parti depuis l'intervention de la France sous Napoléon, Goya, vous pouvez imaginer, c'est 1808, c'est quelque chose quand même, le dos de mayo, quand ils ont vu ça. Ensuite, l'histoire très violente de l'Espagne au XIXe siècle, la guerre civile, curieusement, c'est une mémoire qui se perd. Et ensuite, alors ce moment magnifique qu'on appelle la transition démocratique, là aussi, pour toute la génération comme la mienne, où on a assisté à l'agonie de Franco, on était persuadé que l'Espagne soit allait continuer à rester une dictature. On imaginait très mal l'évolution qui s'est passée d'une Espagne qui entre dans l'Europe et qui, voilà. Même si il faut reconnaître que la question de la mémoire en Espagne est loin d'être réglée, mais au moins on a là une histoire entre guillemets heureuse.
Pas d'oubli, pas de pardon, un travail très compliqué, très lent. Et aucun pardon, d'un côté ni de l'autre. Ça, c'est... On n'est pas au Moyen-Âge, là, on est vraiment dans le présent.
Je voudrais juste faire ressortir une chose que je trouve extrêmement intéressante, c'est entre le moment où je suis arrivé et maintenant, on a presque bouclé la boucle et on est presque arrivé à répondre à une question qui a été posée en début de débat, qui était celle de est-ce que finalement la commémorer, ça nous rend meilleurs ? Et il y avait certains intervenants qui émettaient des réserves à ce niveau-là. Et je trouve qu'en évoquant le processus intellectuel, voire même humain, qui consiste à passer par un rapprochement, une réconciliation et in fine un pardon, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire au travers de ce processus ? Juste éviter de recommencer. Et donc, quelque part, au travers de ce processus, on essaie finalement d'être meilleur. Ce plus jamais ça qui a été évidemment évoqué en début de débat, mais quelque part, c'est un petit peu ce qui guide tous ceux qui souhaitent pardonner ou tous ceux qui souhaitent, à l'instar de Mandela qui a été cité, éviter qu'on sombre dans le chaos. parce que bon, ben, eux, ce sont des esprits encore plus visionnaires, puisqu'ils arrivent à éviter qu'on ait à pardonner. Et donc, ils lancent une démarche anticipée, mais qui certainement a demandé des sacrifices, en particulier, je pense, des sacrifices d'idéologie ou même des sacrifices de conviction, quoi. Et donc, je trouvais très intéressant, puisque finalement, un certain nombre de doutes entendus en début de débat ont été levés au fil de la discussion, ce qui est... Voilà.
Oui, mais juste un petit ajout. Le 9 mai dernier, il y a eu un immense défilé sur la Place Rouge, où Poutine a pris la parole. Il a lu la Deuxième Guerre mondiale comme étant la victoire de l'Union soviétique et de la Russie. Donc l'allié d'hier, celui qui a vaincu les nazis, entre autres, là il exagérait, mais l'allié d'hier devient aujourd'hui l'ennemi, dans la mesure où on a vu cette démonstration, en tout cas du côté de l'Occident et de l'Europe, en France, en Suisse, en Allemagne, partout en Europe, on a vu le prochain adversaire, il s'est déclaré. Donc, je ne sais pas si c'est juste ou faux, en tout cas, c'est la lecture qu'une certaine presse nous donne. Pour moi, ce qui est important dans toute cette commémoration, et je le répète, c'est de savoir dans quel contexte cela se passe. Parce que le 8 mai 1945, c'est quand même une date extraordinaire, puisqu'elle marque la fin du plus grand désastre mondial qui a coûté 60 millions de vies. Et aujourd'hui, nous avons des lectures maintenant qui sont unanimes, mais qui sont instrumentalisées dans des fins qui sont différentes, en tout cas entre Poutine et la majorité des hommes d'État et femmes d'État de l'Occident.
Oui, je vais juste dire, c'est que moi, je ne suis absolument pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit de ce côté-là qu'il faudra chercher l'ennemi, mais c'est plus dans la vision. Oui, non, non, mais je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, la guerre, elle est multiforme. Ça veut dire que la vision que nous avions dans la Première Guerre mondiale, que nous avions encore dans la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, la guerre, elle est économique, la guerre, elle est terroriste, la guerre, et c'est de la guerre pour l'eau, et tout. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout la même définition par rapport à la guerre. Je veux dire, l'aspect de militaire, c'est uniquement une variable, c'est uniquement un instrument parmi d'autres. Et les Chinois le montrent, les Américains aussi, les Européens, on a beaucoup plus de peine parce qu'on a encore notre modèle hérité des Grecs. Mais disons, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est terminé.
J'ai tendance à penser comme vous, mais je remarque que... En lisant ce que les historiens écrivent de la Première Guerre mondiale, je remarque deux choses. C'est que personne n'arrive à se mettre d'accord sur les causes de cette Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que 100 ans plus tard, on est toujours dans la conjecture. On n'avance pas dans la discussion. Et il y a une historienne anglaise qui s'appelle Margaret Macmillan, qui est très bonne sur la Première Guerre mondiale, très intéressante. Elle a écrit récemment un petit papier dans le New York Times, dans lequel elle dit « On est dans la même situation qu'avant la Première Guerre mondiale. Tout recommence. » Et elle fait, en 10 points, les similitudes. C'est assez glaçant. Je pense que ce n'est pas très juste. Mais disons qu'on peut... On peut se laisser séduire par ce discours en boucle, consistant à dire, ben voilà, les guerres reviennent, les conditions, elles ne changent pas autant qu'on croit. Moi, je pense que c'est faux, mais on entend ce discours quand même très souvent. La Première Guerre mondiale, c'est un modèle qui va bien. Il y a un deuxième modèle qui va bien, c'est évidemment aussi la Deuxième Guerre mondiale, les traités de paix Hitler-Staline, Munich. Hein, on dit, ah, voilà, ils vont faire refaire Munich. Enfin, on se sert d'exemples d'histoire pour... Comme référence mentale pour comprendre le monde, et on répète ça. Donc on est dans des schémas, je crois, répétitifs. Enfin, on a tendance à entendre bien le discours répétitif. Ça recommence. Peut-être que je suis sortie de mon rôle, là. J'étais modératrice et je m'en suis mêlée, pardon.
Bonjour, Loïc Pierre. Je voulais revenir un peu sur ce que M. Bercy a dit sur les guerres. Aujourd'hui, il y a des guerres différentes, des guerres économiques, guerres pour l'eau. Mais l'être humain reste l'être humain. Ce genre de guerre a toujours existé. C'est juste que le vocabulaire a changé. Avant, on appelait ça des violences ou des façons de faire différentes. Mais on s'écarte tout un petit peu du sujet, là. Donc, du point de vue de la commémoration, quel est l'intérêt de la commémoration? Quel est l'usage? Pourquoi et pour qui on commémore? Parce qu'on ne va justement pas commémorer les guerres économiques qui ont eu lieu au fin du 19e, début 20e siècle. Par contre, on va quand même commémorer les soldats qui sont sacrifiés pour la patrie dans la Première Guerre mondiale.
Je redirais, pour moi, la commémoration, elle se fait à deux niveaux. Il y a une commémoration de l'État qui reprend son rôle, ou disons le contrôle par rapport à un conflit, et puis qui persiste et signe. Il y a une commémoration également pour les enfants de la patrie qui ont donné leur vie en servant loyalement, je veux dire, aux ordres qui leur étaient donnés, aux ordres politiques. Pour moi, c'est ça. Par contre, ce que vous dites par rapport aux guerres, non, il y a quand même une évolution, même si Napoléon avait essayé de faire sa guerre économique par rapport à l'Angleterre, c'est différentes choses, mais l'échelle à laquelle ça se fait aujourd'hui, c'est plus la même.
Je voudrais très rapidement revenir sur ce que M. Tissot disait en matière justement d'instrumentalisation d'une cérémonie commémorative. Je pense, et que monsieur a fort bien également illustré au travers de la manière dont on peut exacerber des nationalismes par le biais de cérémonies militaires, etc. Je pense qu'on est dans une bête problématique de sémantique. Est-ce qu'on commémore un armistice, c'est-à-dire la fin d'un désastre, et donc qui sous-tend une volonté de rapprochement et de pardon, ou est-ce qu'on célèbre une victoire? L'exemple que vous donniez est tout à fait bien choisi. Il y a des pays dans lesquels on célèbre une victoire, et celui que vous avez évoqué, et puis d'autres, les cérémonies que nous organisons en Suisse ou en France, ou j'imagine également même en Allemagne, où on va plutôt penser à la fin d'un drame. Et je pense que là, l'approche psychologique est diamétralement opposée.
Merci. Monsieur, j'aimerais donner la parole à Monsieur Kaub pour finir, parce que je voudrais que vous nous disiez les cimetières.
C'est un triste sujet. Tout d'abord, les commémorations, à mon avis, tout au moins, c'est un acte de reconnaissance. C'est montrer que l'on n'a pas oublié, montrer qu'on est encore conscient qu'il y a eu des tragédies, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des drames, et qu'on en prend la mesure, et ce qui serait encore mieux, qu'on va s'en servir pour l'avenir, effectivement. Et une commémoration, à mon avis aussi, elle doit être dynamique. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement de passer un moment devant la télé pour regarder un défilé, ou d'aller devant un monument aux morts et de se recueillir pendant une minute de silence, mais il y a un côté pédagogique qu'il faudrait intégrer. Et comme vous parlez des écoles, je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un partenariat, ou tout au moins un pont, qui pourrait se créer entre des étudiants qui seraient intéressés au moment de ces cérémonies et qui viendraient participer à ces cérémonies, au moins pour en prendre conscience et essayer de voir, même d'entreprendre certaines relations pour mieux comprendre les effets et les causes de ces deuils et de ces morts que l'on n'oublie pas. Alors, ceci dit, vous me posiez la question sur les cimetières. Je dois vous dire que je connais à peu près 1000 lieux en Suisse où des soldats français sont inhumés. Ça peut vous paraître très étrange. Vous allez me dire, on n'a pas eu de guerre à tel point que la Suisse s'est battue contre les Français pour qu'il y ait 1000 décédés français en territoire suisse. Cependant, il y a une guerre qu'on oublie un petit peu, parce qu'elle est encore lointaine, c'est 1870, où l'armée Bourbaki, poussée par les troupes prussiennes, entre autres, et autrichiennes, a trouvé refuge en Suisse, et donc 82 000 soldats, avec tout l'équipement, les chevaux, les chars, les armes, etc., ont pu passer, entre autres, à la frontière des Verrières, mais les passages allaient quasiment depuis Bâle jusqu'à Genève. Et ces 82 000 soldats, reçus avec beaucoup de charité, soignés, ne sont pas tous rentrés en France. Certains sont décédés en Suisse parce qu'ils étaient blessés, parce qu'ils étaient malades, et donc ont été enterrés en Suisse. Et d'autres, même au moment du rapatriement, n'ont pas voulu revenir en France, se sont mariés en Suisse et sont donc devenus des habitants suisses, si on peut dire, et sont décédés et enterrés dans des lieux géographiquement suisses. Je vous dirais que dans le canton de Neuchâtel, on a de nombreux lieux, dont notamment la place du Mail, vous connaissez peut-être le monument du Mail. Vous avez un monument important à la Chaux-de-Fonds. Il y a les Verrières où il y a trois tombes. Il y a Boudevilliers où il y a un monument. J'en ai des quantités en tête comme ça. Et la France s'est attachée à maintenir ces lieux en reconnaissance, en fait. C'est comme si on avait une commémoration permanente et les noms de ces soldats et des régiments auxquels ils appartenaient sont gravés sur ces monuments ou sur ces tombes. Je fais juste un saut pour la guerre 14-18. C'est la guerre où, à ma connaissance, pour la première fois, on a employé le gaz moutarde, l'hyperite. Il y a eu de très très nombreuses victimes, autant du côté français que du côté des Alliés et peut-être même du côté des Allemands, parce que l'hyperite se propage selon le vent. Alors, si le vent tourne, l'hyperite, elle peut retourner de là où elle venait. Et la Suisse, la Croix-Rouge, fait en sorte de rapatrier tous ces gazés et les a hospitalisés principalement à Lézin, qui était une station climatique pour les tuberculeux. Alors là, il y a un ossuaire, on ne parle pas de dizaines ou de centaines, mais il y a, je pense, des milliers de corps, français, polonais, belges, et peut-être encore, je crois, italiens aussi, qui sont restés là parce qu'ils sont décédés, ils n'ont pas pu être guéris, ça n'existait pas. On mourait de la tuberculose et puis on restait à Lézin. Ça, c'est pour répondre à la question des emplacements de nos soldats et des soldats d'autres pays, comme par exemple à Vevey, si je ne me trompe pas, il y a un carré de soldats britanniques et de soldats... ça m'échappe, mais britanniques. Pardon ? Néo-Zélandais, merci mon colonel. Heureusement que vous êtes là. donc vous voyez, c'est d'abord la Suisse a accompli quelque chose. Elle est vraiment partie prenante dans ces commémorations. Parce que le seul fait d'avoir sur son territoire tous ces signes d'inhumation, c'est une commémoration permanente. Et là, on a une très grande reconnaissance envers la Suisse et la Croix-Rouge qui a participé dans la pratique. En Suisse allemande, je ne vais pas manquer non plus de parler de Zurich, où il y a un très grand monument et un carré militaire. À Berne, il y a un carré militaire avec de nombreuses tombes. Soleure, Vienne, il y a aussi Bâle. De tête comme ça, je pourrais vous dire, il y en a des quantités. Donc, moi, j'en avais repéré, quand j'avais fait un inventaire, un millier de lieux, pour vous donner une idée. Voilà ce que nos amis suisses nous ont offert.
Merci, M. Combe. À moins que vous ayez quelque chose de très impératif à dire, je crois que je vais clore cette soirée qui était très bien suivie. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous aurez profité de ces moments d'instruction collective. Merci beaucoup.
Merci. Alors, au nom du comité scientifique, des cafés scientifiques, pardon, je voudrais remercier Madame Joëlle Kunz qui a bien eu l'amabilité de venir animer cette soirée. Je voudrais remercier aussi Karin Skoupien-Dekens pour avoir pris contact avec tous ces intervenants. Et vous remercier, vous, de votre fidélité et vous annoncer que maintenant, c'est la pause estivale qui va commencer des cafés scientifiques. Je vous donne donc rendez-vous le 17 septembre pour un tout autre sujet qui aura plus trait à l'enseignement à distance, l'enseignement avec Internet, avec ce qu'on appelle dans le jargon des nouvelles études du 21e siècle, les MOOCs. Donc vous saurez tout sur les MOOCs le 17 septembre, ici à la même heure. Voilà, bon été à toutes et tous. Merci beaucoup.